France Musique. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de nouveau ensemble jusqu'à 9h pour une émission avec la programmation musicale uniquement faite par vous. Une émission où nous vous donnons la parole aussi, alors n'hésitez pas à vous manifester auprès de toute l'équipe. Nous prendrons contact avec vous. Ce matin, trois d'entre vous au téléphone pour échanger, parler de musique, de vos ressentis, vos coups de cœur, cette passion, celle que nous partageons ensemble ici donc avec vous, en direct chaque samedi matin. Notre jeu à 7h50, dans 20 minutes, pour gagner ce matin le disque de Paolo Zanzu à la tête de son ensemble Le Stagioni pour leur disque Officina Romana avec le contre-ténor Carlo Vistoli. Paolo Zanzu, seul au clavecin, qui sera l'un des invités samedi prochain au festival Ouverture à Semur en Auxois. Deux chroniques, comme chaque samedi, à 8h. Une œuvre, trois idées avec Marc-Olivier Dupin et l'œuvre en question, eh bien, c'est Éclat pour 15 instruments de Pierre Boulez. Et à 8h50, en fin d'émission, tendez l'oreille avec Christophe Dillis qui va démystifier une légende autour de Louis Armstrong. Apparemment, le scat existait bien avant lui. Et tout de suite, votre programmation qui débute, une proposition de Monsieur Square sur Twitter. Un peu de Capsberger, la toccata seconda arpeggiata par Rolf Lislevand. C'est pas mal ça, pour un bon week-end d'automne. France Musique est à vous, bienvenue et bon réveil, il est 7h31. Toccata arpeggiata numéro 2 de Capsberger, interprété par l'artiste en question dont nous parlait Monsieur Square sur Twitter, Rolf Lislevand au théorbe, Eduardo Eguez à la guitare, un nom qu'on connaît bien puisqu'il dirige La Chimera, un disque tout nouvellement sorti, et puis Brian Ferran au luth et Pedro Estevan aux percussions. Merci de nous écrire en direct pour nous suggérer vous-même vos idées musicales que nous écoutons aujourd'hui ou bien un prochain samedi. Les réseaux sociaux de France Musique, Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que notre adresse mail francemusiqueestavous@radiofrance.com. Tout est ouvert devant nous, nous sommes tout ouïes et nous lisons vos messages maintenant. Un premier message vocal tout de suite, une grande fidèle de l'émission, Élise, qui nous avait parlé l'an dernier pendant le confinement de ses cours de hautbois. Nous avons donc de ses nouvelles. Et je sais que vous êtes nombreux, on le sait, à avoir repris vos instruments en main et les cours de musique en cette période de pandémie. Élise, eh bien, c'est à vous.
Bonjour à toute l'équipe de France Musique. Sincèrement, quel plaisir de pouvoir prendre la parole à l'antenne ce matin. Je vous propose de diffuser le concerto en mi bémol majeur de Bellini et je vous remercie de pouvoir le faire. Il faut savoir que c'est sur ce morceau particulièrement que j'ai eu mon premier coup de cœur pour le hautbois. C'était lors d'un concert à la chapelle de Conflans à Charenton-le-Pont et c'est le magnifique hautboïste Emmanuel Delangre qui jouait. Il était à l'époque le professeur de hautbois de mon fils et il est aujourd'hui le directeur de notre conservatoire municipal. Je lui passe un petit bonjour bien sûr. C'est donc particulièrement ce morceau qui m'a donné envie d'apprendre le hautbois moi-même. Et cela fait maintenant 4 ans que je prends des cours. C'est pour dire l'importance que ce morceau a eue dans ma vie. Quelle joie de jouer pour moi aujourd'hui, d'apprendre, de travailler et de découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir aussi parce que c'est mon anniversaire demain. Donc un grand merci à vous, c'est un très beau cadeau d'anniversaire. Bravo à toute l'équipe, votre émission est géniale. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation.
Armin Jordan à la direction de l'Orchestre de Chambre de Lausanne avec Jean-Paul Goy au hautbois dans ce concerto pour hautbois en mi bémol majeur de Vincenzo Bellini. Eh bien oui, Bellini n'est pas qu'un compositeur d'opéra, 11 au total. Il a composé évidemment des mélodies, de la musique de chambre et puis un seul concerto, ce très beau concerto pour hautbois que nous venons d'entendre, qui date de 1823 et comme vous avez pu l'entendre, qui fait enchaîner les trois mouvements. Merci pour vos messages en direct qui nous arrivent, Fanfan. Françoise, me semble-t-il, à Pau, qui nous suggère d'écouter avec un peu de gaieté le boom de Charles Trenet, interprété par Anne-Sophie von Otter. Je suis sûre que nous allons trouver ça. Michel également, et puis Oleg, qui nous écrit à l'instant de Suisse. Et nous accueillons notre première auditrice au téléphone à 7h44. Odile, bonjour.
Bonjour, bonjour Gabrielle.
Bienvenue bonjour dans l'émission. Odile, vous habitez à Paris, vous êtes à la retraite depuis peu. Que faisiez-vous ? Vous étiez documentaliste, mais dans quel domaine ?
J'étais documentaliste dans une centrale d'achat qui vendait des films aux bibliothèques, aux réseaux éducatifs et associatifs. Films sous forme de DVD.
De DVD.
Sous forme de DVD, oui.
Il y avait aussi des DVD d'opéra, des captations d'opéra.
Oui, ouais. Oui, la musique est très demandée par les bibliothèques. Mm-hmm. Très, très demandée, oui.
Alors, vous, votre amour de la musique remonte à votre enfance avec une amie. Vous me disiez que vous passiez certaines récréations à l'école dans la salle de piano. Elle vous jouait quelques morceaux ?
Elle me jouait quelques morceaux et c'était fabuleux, c'était magique hein, d'être dans cette petite salle et c'était très émouvant. Oui.
Et puis il y a la Bretagne aussi chez vous qui prend de la place à la fois dans la famille et puis au niveau de la musique puisque vous nous racontiez que votre père chantait lors de célébrations, cérémonies en breton avec ses frères et sœurs et puis également vous avez aussi vécu quelque chose de douloureux, la perte de votre frère et à son enterrement il y a eu la cornemuse.
Voilà. Oui, la musique bretonne, effectivement, c'est vraiment intégrante pour moi culturellement. Et bon, je parle breton aussi. Enfin, je le comprends évidemment puisque à la maison les parents parlent breton pour pas que l'on comprenne. Donc, évidemment, ça infusait. Et donc mon frère, oui, il a été président du Bagad de la ville où il habitait pendant un moment. Il a aussi fait son service militaire au Bagad de Langbioué.
Bagad, donc c'est un petit ensemble d'instruments en Bretagne.
De musique bretonne, oui, avec de la cornemuse, de la bombarde, etc. Et donc lors de ses funérailles, on a joué, deux de ses amis très proches ont joué un morceau de Gordon Duncan, qui est un grand compositeur, je l'ai découvert après, écossais. Mm-hmm. Et c'était magnifique, ça a vraiment transporté, tous les assistants. Mm-hmm. Voilà, c'était une belle manière de l'accompagner.
Et on voit là aussi à quel point la musique épaule, entoure dans ces cas-là. Et donc là, c'était avec la cornemuse, donc The Sleeping Tune, joué par deux de ses amis. Et là, on a, avec vous, cherché des versions, et une en particulier qui vous plaît, celle de Gillian Ettinga, à la cornemuse, que l'on va donc écouter. Merci beaucoup. Odile, d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir raconté cette tranche de vie. À très bientôt.
Merci à toute l'équipe. Au revoir.
The Sleeping Tune, courte mélodie de Gordon Duncan, interprétée par Gillian Ettinga à la cornemuse. La musique comme une vertu apaisante, c'était le choix d'Odile à l'instant. Et puis, pour parler de cet instrument, je vous invite à regarder la vidéo de France Musique, la cornemuse, comment ça marche. J'ai appris que la cornemuse était en fait une famille. Il y en a 70 sortes en tout. En 3 minutes 30, le sonore de cornemuse Erwan Karavec vous dit tout. C'est à voir sur notre site francemusique.fr. C'est l'heure de notre jeu tout de suite à 7h50. Je vous laisse d'abord vous diriger vers l'onglet Contactez-nous à la page de notre émission France Musique est à vous sur francemusique.fr. Pour répondre à notre question, évidemment, n'oubliez pas vos coordonnées complètes. À gagner ce matin, le disque Officina Romana de Paolo Zanzu, à la tête de son ensemble Les Stagioni, et le contre-ténor Carlo Vistoli. Un disque paru sur le label Arcana, c'est comme une soirée idéale, une conversazione d'esprit élevé à la table festive d'un cardinal romain, un programme qui mêle musique vocale et instrumentale en orchestre ou en effectif de chambre. Paolo Zanzu, qui sera au clavecin seul l'un des invités du festival Ouverture à Semur en Auxois, ce sera samedi prochain le 9 à 20h30. Ce festival Ouverture, en partenariat avec France Musique bien sûr, lui ouvre ses portes du 8 au 24 octobre, consacré à la musique française. Alors notre question, que signifie le nom de cet ensemble Les Stagioni ? Que signifie le nom de l'ensemble de Paolo Zanzu, qu'il a fondé en 2017, Les Stagioni ? Je ne donne pas 3 propositions, allez, je vous laisse réfléchir. Et je donnerai la bonne réponse et le prénom des gagnants juste avant 9h. Il faut donc rester à l'écoute. Que signifie le nom de l'ensemble Les Stagioni de Paolo Zanzu ? Merci à vous de participer, déjà des mails qui arrivent. Et tout de suite, eh bien à 7h51, nous écoutons encore une nouvelle suggestion, l'une des vôtres.
Tanti nomi, tante stelle, tanti fiumi, non apprendere il cuore, tante raggi, non è il sole, quanta noia per noi ignora, con gente che si innamora, quanta noia per noi ignora, con gente che si innamora, cuore gente che si innamora.
La la voix de Montserrat Figueras, proposition d'Hélène sur Facebook qui est, nous dit-elle, auprès de ses chevaux ce matin. La voix de Montserrat Figueras, donc tout est grandiose chez elle, nous dit Hélène. Elle nous a laissé le choix et donc c'est cette mélodie Non al ciel de Giulio Caccini que nous écoutions ce matin. Elle était accompagnée par Hopkinson Smith au luth, Jordi Savall à la basse de viol, Robert Clancy à la guitare et Xenia Schindler à la harpe. Denis, lui, nous a écrit il y a quelques jours pour nous rappeler que samedi 25 septembre, la semaine dernière, cela fait 15 ans que le compositeur, pédagogue et chef d'orchestre Henri Vachet nous a quittés. Directeur du conservatoire de Douai également, il a été mon professeur d'harmonie, nous confie Denis. J'ai fait partie du jeune orchestre symphonique, l'ancien nom de cet orchestre de Douai, au pupitre des trompettes, sous sa direction, ainsi que celle de Monsieur Joise, Joël Doise, adjoint de Vachet. Ils se partageaient tous les deux la direction de l'ensemble à l'époque. C'était un homme très rigoureux et facilement abordable. En sa mémoire, nous avons pu nous procurer, nous, avec l'équipe de France Musique et vous, un disque que Nicolas Bichet a pu avoir auprès de l'orchestre de Douai. Nous remercions d'ailleurs vivement les équipes de cet orchestre pour leur collaboration. L'occasion donc d'écouter son concertino pour violoncelle sous sa direction, une œuvre de 1958. Et à ce propos, le 30 janvier prochain, l'orchestre de Douai donnera un concert à l'auditorium Henri Dutilleux de Douai, avec notamment au programme deux œuvres d'Henri Vachet, son prélude, interlude et postlude, ainsi que son nocturne pour trompette. C'est le 30 janvier prochain. Le jeune orchestre symphonique de Douai, dirigé par le compositeur lui-même, Henri Vachet, avec Diana Ligeti au violoncelle. Et c'était à l'instant le presto du concertino pour violoncelle d'Henri Vachet, le jeune orchestre symphonique de Douai, l'orchestre symphonique de Douai, qui célèbre ses 50 ans cette année. Merci pour vos messages qui nous arrivent, Gilles, Henri à Brogue, ou encore Thierry à Auray, Firmin à Brogue toujours, ou encore Jean à Saumur et tant d'autres. Dans quelques instants, eh bien, nous continuerons à lire vos messages qui nous arrivent en direct. C'est la suite de votre programmation musicale dans quelques secondes.
Avec Diapason, osez être classique. Au sommaire d'octobre, Benjamin Bernheim, nouveau prince de l'opéra, Alexandre Zemlinsky, un génie trop discret, Beatrice Rana, la nouvelle étoile du piano, le guide des concerts 2021-2022, un CD événement, la 9e symphonie de Beethoven et le programme mensuel des concerts France Musique. À retrouver dans Relax, l'émission de Lionel Esparza, à 15h du lundi au vendredi sur France Musique et en podcast.
Bienvenue dans la deuxième partie de France Musique est à vous. Dans quelques secondes, il sera 8h. Merci de passer votre matinée avec France Musique. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission, et bien, puisque vous en faites la programmation musicale. Nous écouterons, je peux vous le dire, puisque vous avez été nombreux à participer sur Facebook, entre autres. Beaucoup de choses nous ont été proposées, tous les styles, tous les genres. Respighi ou encore John Blow d'ici 9h ont été choisis. Le reste, c'est à vous de nous le dire en direct ou pendant la semaine. Nous conservons toutes vos idées musicales pour les diffuser à leur tour. Les réseaux sociaux donc de France Musique ainsi que notre mail francemusiqueestavous@radiofrance.com. À 8h50, dans une petite heure, la chronique de Christophe Dillis qui va démystifier une légende. Le scat a existé bien avant Louis Armstrong. Et tout de suite, c'est la chronique de Marc-Olivier Dupin, une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Gabriel.
Aujourd'hui, c'est à Éclat de Pierre Boulez que vous consacrez votre chronique.
Oui, une œuvre magnifique écrite entre 1964 et 1965 pour 15 instruments, une sorte de concerto grosso absolument magnifique, presque aussi belle qu'un concerto brandebourgeois.
Éclat de Boulez, mais quelle est votre première idée dont vous souhaitez nous faire part ce matin, Marc-Olivier ?
Alors la première chose frappante dans cette œuvre est le soin avec lequel Boulez traite la résonance acoustique. Dans l'évolution de la composition au XIXe siècle, l'utilisation de la résonance a bien entendu beaucoup évolué avec la facture instrumentale, et notamment celle du piano. Chopin et Liszt s'en sont génialement emparés dans leur écriture pianistique, puis Debussy, bien évidemment, comme par exemple dans la cathédrale engloutie, ici interprétée par le compositeur lui-même. Autre exemple particulièrement important pour Boulez, la fin de Noces de Stravinsky, où se mélangent les résonances du piano et celles des percussions.
Sur les résonances du piano et des percussions, Marc-Olivier, quelle est votre deuxième idée maintenant ?
Alors ma deuxième idée est un peu liée à la première. Dans Éclat, Boulez utilise tout un éventail d'instruments à résonance variable. Par exemple, une mandoline a une résonance très courte, ou une guitare non sonorisée, et un peu plus, mais pas tellement, comparé à des instruments comme le piano avec pédale ou les cloches tubes.
Il y a donc une mandoline dans Éclat ?
Oui. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve, dans l'instrumentarium d'Éclat, c'est au fond cette panoplie tout à fait extraordinaire et singulière d'instruments qui ont des résonances très courtes et d'autres de très longues résonances. Alors, Dans tout cet instrumentarium étonnant, il associe un instrument extraordinaire déjà aimé de Stravinsky, le cymbalum, ici dans une petite formation de tziganes roumains.
Le cymbalum donc, mais là on est loin de l'esthétique de Pierre Boulez.
Certes, mais comme toujours, les mondes se croisent et s'entrecroisent. De tout temps, les instruments du folklore ont pénétré la musique savante, à commencer par le violon, par exemple.
Et alors, on va continuer avec cet éclat de Pierre Boulez. Quelle est votre troisième idée?
Alors, cette troisième idée est étrange. Elle est musicale, mais pas seulement. C'est au fond la notion de temps suspendu. Dans Éclat, il y a des fulgurances, comme par exemple au début de la pièce. Il y a beaucoup de moments très virtuoses et fugaces, mais Boulez aime aussi arrêter le temps, soit sur une résonance, un accord, ou sur un tri, ou un trémolo, c'est-à-dire sur une note qui tourne sur elle-même. Ce n'est pas nouveau. Retrouvons un autre exemple de cette sorte de temps suspendu dans le cinquième brandebourgeois de Bach.
Et ben pourquoi pas nous parler du cinquième concerto brandebourgeois de Bach, une prochaine chronique, Marc-Olivier.
Mais avec joie.
Bon, donc en tout cas, c'était le suspens en musique. Et pour revenir à Éclat, quel enregistrement nous conseillez-vous?
Alors, il y a bien sûr les enregistrements dirigés par le compositeur lui-même, Pierre Boulez, avec l'ensemble intercontemporain. Mais il y a aussi ces extraits qu'on a entendus de Simon Rattle, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin, et qui est tout à fait magnifique. Et c'est une œuvre très belle, dont beaucoup de grands chefs d'orchestre se sont appropriés. Mmh. Et il faut dire aussi que après Éclat, il y a une suite qui s'appelle Éclat multiple, également un chef-d'œuvre tout aussi accessible, où se déchaîne notamment une joyeuse bande d'alto et d'altistes.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique, une œuvre trois idées à retrouver sur notre site francemusique.fr et à réécouter évidemment sur l'appli Radio France. Et puis je sais que mercredi vous serez à Lausanne, vous dirigerez l'orchestre de chambre de Lausanne pour Le Petit Prince.
Ça c'est une autre vie.
Ah ben je sais bien, mais il faut un peu la dévoiler aussi, non? Ça va?
C'est
ça
très
vous dérange
gentil.
Pas?
Pas du tout.
Bonne semaine et bon concert.
Merci, merci beaucoup.
Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous.
laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu.
La voix d'Édith Piaf, Mon Dieu, paroles de Michel Vauquer et musique de Charles Dumont, le même duo d'ailleurs qui avait écrit déjà pour elle la chanson Non, je ne regrette rien. Vos messages continuent de nous arriver en direct et puis également Fabien qui nous écoute en profitant de l'avant-dernier jour de l'Arc de Triomphe emballé par Christo et Jeanne-Claude. Fabien que l'on salue et puis également Jean à Aubais, Chantal à Grenoble ou encore Brigitte, Jean-Luc et Alain à Salles-la-Source. Et bien oui, et puis Édith Piaf, elle était proposée, c'est pas n'importe quoi, depuis le Mexique par Umberto qui nous écoute donc depuis Mexico, je crois, précisément, et qui nous a indiqué ce choix via Twitter. Merci beaucoup Umberto et bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors je sais que vous voyez la mer certainement, vous êtes à Boulogne-sur-Mer.
Oui, mais vous vous êtes trompé, je suis à Boulogne-Billancourt.
Ah bah d'accord, donc vous ne voyez pas du tout la mer.
Pas du tout, je vois
c'est l'autre Boulogne.
Ciel gris, mais tout va bien.
Bon, vous voyez la scène musicale peut-être.
Pas non plus. J'imagine. Non,
vous l'imaginez.
Décidément, je ne vois rien, mais j'espère que je vais entendre un petit peu.
Oui, ça, on compte bien sur vous. Alors Michel, vous nous avez suggéré quelque chose d'assez fascinant, une musique que vous avez découverte grâce à l'émission de Corinne Schneider, le Bac du Dimanche, il y a quelques mois.
Oui, c'est tout à fait ça. Je me souviens même de la date, parce que quand quelque chose me frappe, je le marque sur mon agenda. C'était un dimanche, c'était le 6 décembre 2020.
Entre 7h voilà. Et 9h, donc. Eh bien, figurez-vous que j'ai on va parler de la musique en question, mais j'ai parlé de vous, évidemment, hein, Corinne Schneider, qui n'en revenait pas de votre témoignage, parce que, voilà, c'est très touchant de faire des liens entre les émissions et les découvertes faites grâce à la radio. Alors, c'est donc Bach, évidemment, mais revisité.
Oui, tout à fait. Et je veux juste dire qu'il y a eu un petit préalable dans ma vie, parce qu'il y a une trentaine d'années, vous étiez peut-être encore jeune, il y a eu aussi un événement comme ceci, un CD qui fêtait les noces de Bach et de l'Afrique.
Ah oui, je me souviens très bien de ce disque. Absolument.
Mm-hmm. Que j'écoute toujours, voilà. Et donc j'étais resté avec ce souvenir qu'un jour, peut-être, il arriverait que j'entendrais cette musique, ou cette fois, l'alchimie serait totale entre le grand Jean-Sébastien Bach et puis donc... la culture arabo-musulmane que j'aime beaucoup, voilà.
Avec
et
une...
c'est arrivé ce fameux jour.
Mmh. Avec ce disque Arabian Passion, According to Bach, avec l'ensemble Sarband, et puis il y a aussi le Modern String Quartet, il y a des touches de jazz, des saxophones, et puis tout ça inventé, imaginé par Vladimir Ivanov. Et cette voix, quelle voix, celle de Fadia El Haj, mezzo-soprano libanaise.
Oui. Une voix magnifique. J'ai failli me tromper au début. J'ai cru que c'était la voix de Farouz.
Mais je crois qu'elles ont, elle a travaillé à ses côtés.
Ah, bah, peut-être. En tout cas, il y avait une similitude. Donc tout ça, mm-hmm. Ça fait tilt. En plus, cet air de Bach, dans le CD, il n'y a pas que des airs, il y a aussi des chorales. Et puis, à un moment, c'est vrai que ça sent un peu le jazz. Ça, vraiment, il y a un délire musical formidable. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref.
Bon, en tout cas, Fadi El Hadj.
J'ai entendu cette voix, ça a été magique, parce que je pense qu'on arrive au sommet de l'émotion musicale, de la prière, et avec le message aussi, c'est ça qui m'a touché. Moi, je suis pour la mixité musicale, c'est-à-dire que les cultures sont pas faites pour se combattre. Tout ce qu'on entend, les horreurs qu'on entend aujourd'hui chez les populistes qui sont plus amnésiques que stupides, et au contraire, ils oublient à quel point l'Occident doit à l'Orient. C'est formidable quand on y pense. Voilà, et donc je suis très enthousiaste et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens de la convergence des cultures, des musiques, de l'art, et que Bach, du coup, Bach est universel.
Et ça fonctionne très bien, effectivement, une musique jamais entendue, ça laisse des traces. On sent très bien que c'est pas un pastiche, mais plutôt le résultat, comme vous dites, assez fascinant, où la prière, la tolérance, la paix est bien plus que respectée, même elle en ressort grandie et universelle, effectivement.
Tout à fait, c'est amplifié, c'est des connexions entre l'Orient et l'Occident. D'ailleurs, ce groupe, leurs 7 musiciens viennent de 7 univers différents, et leur spécialité, c'est vraiment la musique juive, la musique chrétienne, la musique musulmane, tout ça dans leur création. Et même le violon de Mohamed Ali Hashim, c'est très beau, c'est très... Enfin bon, c'est à... Voilà, si les larmes pouvaient venir aux oreilles au lieu de venir simplement aux yeux... Je crois que ça serait le rêve, mais c'est pas fait comme ça.
Merci voilà beaucoup, Michel. N'hésitez pas à aller à Boulogne-sur-Mer un week-end quand même, histoire de nous donner raison. Et puis, merci beaucoup, beaucoup pour ce choix. C'est vraiment très beau. On va l'écouter tous ensemble à 8h15 sur France Musique. Bon week-end.
Merci à vous. Bon week-end. Au revoir, Gabriel. Au revoir.
Oh,
Fabuleuse voix de la Libanaise Fadia El Hadj, qui s'est formée aussi bien au conservatoire de Munich qu'auprès de la légendaire Férouz. On en parlait à l'instant avec Michel qui était au téléphone avec nous. La chanteuse était accompagnée par l'ensemble Sarband, le Modern String Quartet dirigé par Vladimir Ivanov. Un très beau mélange de musique baroque, des improvisations orientales, une touche de jazz dans ce disque de passions arabes autour de Jean-Sébastien Bach. Et à l'instant, cet air Herbar Medish prend pitié, extrait de la passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Merci toujours pour vos messages. Je pense à Colette à Gréasque, Dominique à Niederbronn-les-Bains ou encore Frédéric à Villeneuve et Thierry à Paris. Thierry à Paris encore ou encore un autre Thierry mais à Antibes. Et tout de suite à 8h23, un nouveau message vocal qui ne nous dévoile son nom qu'à la toute fin. Eh bien, je le dis d'abord, Catherine.
Bonjour France Musique. Pour moi, un samedi matin idéal en cet automne serait d'entendre la 9e variation Enigma dite Nimrod de Sir Edward Elgar, un compositeur britannique autodidacte. Ces variations sur un thème ont été écrites en 1899, selon Elgar, à partir d'un thème qu'il a nommé avec les surnoms de ses amis pour que chacun corresponde à l'humeur d'une personne. Nimrod correspondra à son ami Jaeger. L'énigme de ces variations restera dans le second thème, qui selon le compositeur parcourt l'œuvre entière mais n'est jamais entendue. Nimrod est une variation douce, mélancolique, profonde, emplie de pudeur, d'élégance et d'amour. Merci à France Musique, à la qualité de vos émissions. Très belle journée à tous les auditeurs et particulièrement aux équipes du Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, du Collège Brosselette de Châtenay-Malabry, ainsi qu'à tous mes élèves. Bon week-end à tous.
L'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Zubin Mehta, dans la variation numéro 9, Nimrod, des variations Enigma, sur un thème original, l'opus 36 d'Edouard Elgar, suggéré donc par Catherine. Vous aussi, vous pouvez nous laisser un message vocal, n'hésitez pas, vous nous l'envoyez sur notre mail, francemusique@radiofrance.com. Sur Twitter, bonjour à vous, Kamel B, Véronique et Anne, ainsi que sur Facebook, Cédric, Katia, Jean-Pierre, Pascal, Christine, Marie-Laure. Et puis sur Facebook également, Jean-Pierre qui nous suggère d'écouter la troisième partie de Tehillim de Steve Reich, une œuvre de 1981. Tehillim, un mot hébreu qui désigne le psaume, et là nous allons écouter la troisième partie qui correspond au psaume 18, mais qui, comme le décrit le compositeur lui-même, ne fait aucune allusion musicale au monde de la Bible ou au thème du judaïsme. Ici, c'est le psaume 18 qui est mis en musique, une œuvre que Jean-Pierre décrit, lui, à notre auditeur, comme apaisante en ces temps de confusion. Alors ici, c'est un peu particulier dans l'œuvre de Steve Reich, il n'y a pas de répétition de courtes structures, comme il a l'habitude de le faire, et voici ce qu'il en dit lui-même, le compositeur. J'ai évité de l'utiliser car il était nécessaire que le texte soit en accord complet avec son rythme et sa signification. Le rythme du texte hébreu détermine directement celui de la musique et lui transmet ses maîtres flexibles et changeants.
Thank you.
Les voix d'Yvonne Benchop, Barbara Borden, Tani Willemstein et Ananda Goud, accompagnés par le groupe de percussion de La Haye et l'ensemble Schönberg, dirigé par Reinbert de Lehe, dans ce psaume 18, la troisième partie de Tehillim de Steve Reich, compositeur qui fête ses 85 ans demain. Et à ce propos, Guitare, Guitare, émission de Sébastien Linares tout à l'heure, entre midi et demi et 1h, 13h, sera consacrée à l'œuvre pour guitare de Steve Reich, une rencontre, une émission avec le guitariste Pierre Bibeau. Merci pour vos réactions en direct qui nous arrivent. Antoine, très heureux, très ému d'avoir écouté cette variation Nimrod des variations Enigma d'Elgar. J'avais oublié à quel point cette musique était si belle et bouleversante. Dès les premières notes, on en a les larmes aux yeux. Et puis vous êtes nombreux aussi à réagir sur l'œuvre de Jean-Sébastien Bach revisitée par l'ensemble Sarbande que nous avons écouté grâce à Michel tout à l'heure. Anne-Marie qui souffre en écoutant ce massacre inapproprié de Jean-Sébastien Bach. Anne-Marie qui est à Neuilly-sur-Seine. Mais à l'inverse, Patricia qui est à Bellevue-la-Montagne qui nous remercie, qui remercie l'auditeur pour ce choix. Également une émotion forte lors de la première écoute. Voilà, bah écoutez, on est là pour lire aussi, recevoir toutes vos réactions. Tout de suite avec nous, Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Gabriel.
Bienvenue dans l'émission. Vous nous appelez de l'Ariège.
Oui, tout à fait, oui, ART.
Et vous êtes adjoint au patrimoine, alors un peu comme notre première auditrice tout à l'heure, Odile, médiathécaire, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Enfin, en tout cas, voilà, dans
sur le réseau de lecture Couserans-Pyrénées.
D'accord. Voilà. Vous êtes dans un rayon, un genre de livre de lecture particulier?
Moi, je suis surtout spécialisée en polar et en littérature de l'imaginaire.
D'accord.
Donc, fantasy, science-fiction et fantastique.
Et vous êtes curieux de tout? Vous y écoutez beaucoup de styles de musique, j'imagine, aussi?
Oui. Bah, j'essaie de faire correspondre le morceau de musique à l'humeur du jour.
Mmh. Alors, vous nous parlez de la mouzak. C'est quoi, ça?
Alors, la mouzak, c'est une musique qui a été créée pour mettre de l'ambiance dans les centres commerciaux.
Ah, d'accord.
C'est une musique, assez impersonnelle et ça en est assez fascinant, en fait.
D'accord. Alors, je ne pense pas que ça passe dans les centres commerciaux, mais ce matin, vous nous proposez Les Pins de Rome, l'un des poèmes symphoniques d'Ottorino Respighi.
Oui.
Pourquoi particulièrement? On va en écouter d'ailleurs la quatrième partie, Les Pins de la Voix Appienne.
Parce que c'est un morceau que je trouve assez émouvant. Il y a une suite logique et une continuité dans l'enchaînement des mouvements. Et ça finit sur ce triomphe-là qui vraiment, moi, me renverse à chaque fois.
Ah oui? Comme un sentiment d'espoir, alors?
Oui, je trouve que c'est ça donne envie d'avancer, quoi. Vraiment un morceau très 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 entraînant.
Alors, est-ce que vous pourriez là en quelques secondes associer cette musique à l'un des livres que vous aimez en science-fiction ou autre d'ailleurs, ou pas?
Oui, par exemple, on pourrait un des classiques du genre, hein, le Seigneur des Anneaux, effectivement. où il y a toute cette progression et on finit le bien triomphe et voilà quoi. C'est vraiment c'est très épique comme musique. Effectivement, ça pourrait bien aller avec ce livre.
Le Seigneur des Agneaux associé au Pain de Rome de Torino Respighi, donc le deuxième du triptyque de la trilogie romaine du compositeur après les fontaines de Rome et avant ces fêtes romaines. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous ce matin.
Ça a été un plaisir.
Très bonne journée. Vous aviez réagi sur Facebook, n'hésitez pas, chaque semaine vous pouvez le faire et nous parler encore de livres et de musique, pourquoi pas. Bonne journée.
Et bonne écoute.
Merci beaucoup.
Au revoir.
la quatrième partie, les pins de la voie appienne, des pins de Rome d'Ottorino Respighi. Cette quatrième partie qui évoque la Rome antique avec ce rythme sourd de marche, avec le cor anglais, les cuivres comme une armée glorieuse, victorieuse. Un beau contraste de timbre, c'était à l'instant la version de l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la baguette de Carlo Rizzi. Ce soir, un événement sur France Musique à 20h samedi à l'Opéra avec le concert inaugural de Gustavo Dudamel. Un concert donc à ne pas manquer sur notre antenne, concert inaugural du chef vénézuélien à la tête de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris qui prend ses fonctions de directeur musical à l'Opéra de Paris. Un concert donc événement avec un florilège d'extraits d'opéra et plusieurs voix à ses côtés. Jacqueline Wagner, Sabine Devielle ou encore Gérald Finlay, un florilège donc d'air d'opéra de Bizet, Defaya ou encore Britten, Adams et Wagner, Strauss, Verdi. Voilà, c'est à partir de 20h, une soirée samedi à l'Opéra présentée par Judith Chen, évidemment. Pour terminer l'émission à 8h45, je vous propose d'écouter le message, la suggestion musicale de Noémie. Nous continuons à vous écouter le Ground en sol mineur pour deux flûtes à bec et basse continue de John Blow.
Le week-end dernier avait lieu les journées de la flûte à bec à Grenoble. Ce genre de festival est toujours riche en rencontres. On croise avec plaisir des musiciens, des facteurs et des visiteurs. Ça y est, c'est terminé. Suite à l'effervescence, l'événement cède la place à plusieurs sentiments, et ce morceau de John Blow peut peut-être les illustrer. Il y a les souvenirs tout neufs auxquels on repense. Il y a les réflexions engendrées qui continuent. Il y a les projets et les actions futures au loin. Et finalement, il y a aussi le repos et la sérénité. À chacun de trouver ce qu'il souhaite dans ce morceau. Quant au choix de la rêveuse, ce bel ensemble a été évoqué dans les couloirs des journées de la flûte à bec, organisées par l'oiseau à plumes. Vivement la prochaine édition. Bonne écoute! Thank you.
Ground en sol mineur pour deux flûtes à bec et basse continue de John Blow, interprété par l'ensemble La Rêveuse, ensemble dirigé, fondé par Benjamin Pierrot et Florence Bolton, fondé en 2004. John Blow, qui lui est mort en 1708, ami et maître d'Henri Purcell. Voilà pour le choix de Noémie. Bonjour à vous Pierre à Nancy, ainsi que sur Instagram où vous êtes nombreux, Hélène, Ghislaine, Teddy, Cédric, Paul, Michel, Ben, Valentine, Rémi, Coraline ou encore Diane, Stéphane, Joanne et Benoît. Et bien tout de suite à 8h50, France Musique est à vous n'est pas terminée puisqu'évidemment maintenant c'est l'heure de la chronique Tendez l'oreille de Christophe Dillis.
France Musique, Tendez l'oreille, Christophe Dillis.
Quelle ambiance! Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Il y a un principe que vous aimez bien en ce moment, c'est retrouver des racines.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont les landes désolées et écossaises de mes ancêtres qui m'appellent ou si c'est le simple plaisir de dire, comme il y a exactement un an, saviez-vous, Gabriel, que les chants traditionnels hawaïens étaient en fait des polyphonies prussiennes du 19e siècle?
On s'en souvient bien.
Mais effectivement, c'est un peu ça qui m'anime en ce moment, déjouer les clichés pour retrouver ou tenter de retrouver les vraies origines de la musique. Par exemple, le scat. Le scat, c'est quoi ? Le scat, c'est le fait d'être un chanteur ou une chanteuse dans un ensemble de jazz et de quand même pouvoir prendre un solo sans parole, comme un instrumentiste qui fait un chorus. On prend une grille et on produit sur le champ une mélodie virtuose, comme ce que nous pouvons entendre là par Nicky Janowski, même si là, elle n'improvise pas. Parmi les grands noms du scat, vous avez Ella Fitzgerald, Carmen Magret, Sarah Vaughan ou encore Dizzy Gillespie. Et donc, Gabriel, je sais ce que vous allez me dire. L'origine du scat, c'est quand même pas très dur à retracer.
Mais évidemment, c'est le 26 février 1926, Hibbies, Jibbies, Hibbies, Jibbies. Une chanson enregistrée par Louis Armstrong avec son ensemble les Hot Five. Et au milieu de l'enregistrement, Armstrong fait tomber ses partitions pour ne pas gâcher la cire du disque qui était en train de tourner. Et il a commencé à improviser sur des syllabes qui n'avaient aucun sens. Et donc, ça a donné le scat.
Voilà, jusqu'à ce matin sur France Musique, c'était ça la version officielle. Hey, don't you know it? Don't be blue. Someone will teach you. Come on and do that dance. They call the heebie-jeebies dance. Yes, ma'am. Father's got the heebie-jeebies dance. Hey, skeet, skat, goop, keep burning, keep laughing. Leap it, diddle-diddle-dee. Le coup des partitions tombées, c'est quand même peu probable, même si Armstrong lui-même a largement répandu cette légende. Et en réalité, on peut même en vouloir un peu à Armstrong de s'être placé lui-même en père du scat, parce que, en disant ça, il trace un trait sur tout ce qui s'est fait avant lui. Aujourd'hui, Gabriel, on va enfiler notre blues d'historien, parce que, en 2017, coup de théâtre dans le monde de la musicologie, Michael G. Garber, docteur en musicologie, spécialiste du Tin Pan Alley et plus généralement de l'histoire de la comédie musicale, a écrit un article passionnant sur une petite phrase, un petit assemblage de syllabes qui est apparu au milieu de nulle part à la fin du 19e siècle. Ces syllabes sont ifa, sofa, dirl. Ifa, sofa, dirl est une expression non-sens, écrite en 1890 par des comédiens ménestrels américains Frank Williamson et Ed Stone. Et en réalité, ce seraient ces trois syllabes qui seraient l'ancêtre primitif du scat à l'époque du ragtime. On les voit apparaître partout, dans tout le répertoire du début du XXe siècle. Un des tout premiers exemples audibles, c'est dans la chanson « If a Saffa Dale » de Collins et Harlan en 1903. Hopped in the morning, swinged in the night, even in his sleep he's never still. As his name, he'll exclaim, if a saffa lapa saffa dale. Mais bon, là, c'est Ifa Saffa Dirl qui est utilisé comme un prénom. Ils ne s'en servent pas vraiment pour scatter. Mais Ifa Saffa Dirl, utilisé en scat préhistorique, pré-jazz, plutôt ragtime, on le trouve dans la chanson emblématique de Gene Green en 1911, King of the Bungalows. Essayez de repérer le Ifa Sofa dans ce passage de pré-scat dans lequel il imite les animaux de la jungle, c'est juste après sa voix rogue. Armstrong n'a rien inventé.
he's a Fossilini, in Andalusia, I had to find her, in the Tudorusia, jump out of sight, oh, mine, give me a piece of pie, sing out the bungalow.
Voilà, l'ancêtre du scat. Et pour vous dire à quel point c'était populaire, on peut même l'entendre dans un épisode de Popeye. J'ai lu plein de témoignages de l'époque qui en faisaient mention, mais qui ne citaient jamais le nom de l'épisode. En recoupant les dates, je crois l'avoir trouvé. J'ai quand même regardé un milliard d'épisodes de Popeye.
C'est pas votre job.
Oui, c'est dans un épisode de 1938, Yam Lovesick, Popeye est à l'hôpital, les médecins s'affairent autour de lui et marmonnent ceci. Je crois bien qu'il s'agit de notre If Sanford Dale. Tendez l'oreille.
Gentlemen, yes, I think we better step right over here. Three, five, 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 five.
Ce qui est intéressant, c'est que ce If Sanford Dale, c'est un ancêtre du scat de Louis Armstrong et d'Ella Fitzgerald. C'est aussi un ancêtre d'une sorte de scat rural endogène propre aux États-Unis. Voici Jamie Riddle qui nous donne une leçon de ifing et tendez l'oreille. On retrouve dans ce scat rural les voyelles de notre If Sanford Dale de 1890. Voilà, on cherchait un générique pour le France Musique est à vous, je crois qu'on l'a trouvé. Donc voilà, c'est l'ancêtre commun du scat jazz de Louis Armstrong et de Ella Fitzgerald, mais aussi d'un scat plus rural, plus rustique, plus banjo, Gabriel.
Donc Jibis de Louis Armstrong, pas du tout le début du scat.
Voilà, c'est ça. C'est un cliché qu'il faut chasser.
Eh bien, grâce à vous, c'est fait. Merci beaucoup.
Merci
Christophe Dillis, une chronique Tendez l'oreille à retrouver, bien sûr, sur francemusique.fr, à réécouter sur l'appli Radio France. Bonne semaine, Christophe.
Bonne semaine à vous, bonne semaine à tous.
Merci. Bonne semaine à vous, chers auditeurs. Merci encore pour toutes ces œuvres, ces interprètes que nous avons écoutées grâce à vous ce matin. Nous allons continuer. Merci à toute l'équipe de l'émission, attachée de production, Lisa Crépy et Lise Lejeune, notre discothécaire Nicolas Bichet, Françoise Cordet à la réalisation, ainsi qu'à la technique ce matin, Victorien Hodge et YouTube Diego Hack Lopez. À la question 7h50, il fallait répondre les saisons, la traduction de les stagioni. Vous recevrez, cher Chantal à Grenoble, Brigitte à Salindre et Alba à Sauve, le disque de Paolo Zanzu avec son ensemble Les Stagioni, le disque Officina Romana. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique et tout de suite les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique avec Charlotte Landru-Chandès, spécial enfant. Charlotte.
Oui, tout à fait Gabriel, spécial enfant.
Oui, alors est-ce que vous avez des enfants qui vous attendront après 11h à votre retour?
Alors moi je n'en ai peut-être pas, mais vous en tout cas, si vous en avez à la maison, eh bien, ce qui va suivre, c'est pour eux. Je ne vous en dis pas plus.
C'est parfait, bonne émission, bon week-end.
Bon week-end Gabriel.
À réécouter sur francemusique.fr.